Est-ce que je peux me permettre de demander à Jean-Philippe Gobeau l'interprétation qu'à Lille et à Louvain ils font de la distinction autonomie, qu'est-ce que vous en pensez C'était, il y avait care, et puis il y avait autonomie, et puis paternalisme.
Bon, puisqu'Emmanuel m'interpelle directement, rapidement sur la question, je pense que sur la question du care, effectivement, il y a plusieurs interprétations qui peuvent être faites, mais je dirais l'interprétation maternaliste serait certainement contestée par beaucoup d'auteurs qui s'inscrivent dans ce courant-là, notamment les féministes, effectivement, qui contesteraient cette disposition au care que certains autres soutiennent en disant que c'est plutôt une activité qui a été développée par un certain nombre de personnes préférentiellement, et la philosophie qu'il souhaite promouvoir dans ce cadre-là, c'est d'une attention plus grande à ce souci de l'autre et à comprendre effectivement quelle est la nature de cette activité. Donc je pense qu'en lien avec le débat sur l'autonomie, puisque effectivement les philosophes du care sont en débat philosophique avec une approche plus individualiste et plus autonomiste, c'est non pas de réfuter la question de l'autonomie, mais en tout cas de la mettre en perspective dans une forme d'interdépendance, c'est-à-dire que la question de l'autonomie est toujours se pose toujours dans une interdépendance entre les personnes, et sans doute qu'une des méprises sur la question de l'autonomie, c'est le fait qu'on en ait fait plus un postulat, alors que peut-être il faut le voir comme un projet, pour reprendre, je dirais, la notion que mettait en avant, par exemple, un philosophe comme Castoriadis. L'autonomie, c'est un projet d'autonomie dans une société qui tente de promouvoir l'autonomie, mais ce n'est pas un acquis nécessairement, donc c'est une visée.
Voilà, je ne sais pas. Et juste un mot, si on était à faire un cours d'éthique, on dirait que le principe d'autonomie en matière d'éthique médicale, on le trouve quand même, je ne sais pas ce qu'en pense un spécialiste comme Jean-Philippe Gobeau, dans l'article 1 du Code de Nuremberg en 1947 sur le concept de consentement. C'est-à-dire, le grand principe, c'est comment éviter l'arbitraire avec les conséquences que ça peut avoir pour privilégier plutôt une fonction d'arbitrage. Tout à l'heure, vous citiez Ricoeur, en fin de compte, c'est ce qu'il voit dans l'arbitrage en matière d'éthique, c'est-à-dire une argumentation, un étayage d'une argumentation, un arbitrage avec à un moment donné, après, comme une procédure judiciaire, hein, d'une certaine façon, et puis on arrive à un moment donné à un jugement qui est totalement étayé. Mais je crois que le grand principe, c'est la notion de consentement. Et vous savez que c'est la grande règle, hein, on doit demander le consentement des personnes, et ça arrive maintenant à des paradoxes. Par exemple, dans le cadre de notre mission en tant qu'espace national de réflexion éthique sur la maladie d'Alzheimer, donc on a été saisi d'un certain nombre de questions, et la notion par exemple juridique, j'espère que Jean-Philippe va s'associer à notre réflexion, sur le pré-consentement par exemple. C'est-à-dire, comment respecter l'autonomie d'une personne qui n'est plus autonome, qui n'est plus une capacité de discerner quand elle est atteinte d'une maladie qui affecte ses fonctions de réflexion. Et donc par exemple, une des réflexions aujourd'hui, ça serait la notion de pré-consentement. Avec un débat, et comme dans les débats éthiques, extrêmement important, puisque dans la loi du 7 août, j'en doute maintenant que je suis devant vous, c'est du 9 août 2004, relative à la politique de santé publique, il y a eu toute une discussion pour savoir si des personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer, donc qui ne sont pas en capacité de consentir, pourraient être incluses dans un essai thérapeutique, voilà, ou dans un essai clinique. Et il y a eu tout un débat pour dire, mais si ces personnes n'ont pas consenti, on n'a pas à les soumettre finalement, ou à les exposer à un risque. Et donc là, une véritable controverse, en disant, mais si ces personne pouvait bénéficier, même si une recherche clinique n'a pas comme objectif de faire bénéficier, c'est un heureux hasard si elle en bénéficie, mais c'est pas l'objet. Et donc si elle pouvait bénéficier, c'est une première chose, donc on leur fait perdre une chance, mais si on ne peut pas faire l'essai sur d'autres personnes que les personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer par exemple. Et donc aujourd'hui, la réflexion qui est une réflexion autour de la question du consentement, est-ce qu'on peut parler d'un pré-consentement d'une certaine manière? De la même manière, vous savez que dans la loi du 4 mars 2002, il y a le respect de la personne qui refuse un traitement. Donc on doit respecter la personne en l'informant des conséquences que ça peut avoir. Mais si elle dit je refuse un traitement, vous savez que psychologiquement des gens refusent des traitements alors qu'il y a tout un ensemble de raisons et un environnement, ne serait-ce que familial, qui fait qu'à un moment donné on n'a plus envie de lutter. Et donc sur cette question aussi, on se pose la question, est-ce que, et là on revoit votre affaire, est-ce qu'on peut juger de la capacité d'une personne à consentir ou à ne pas consentir dans un contexte par exemple où elle serait dans un état de santé affecté, altéré d'un point de vue plus psychologique ou psychiatrique. Voilà. Juste une, les Belges ont donné une bonne réponse hein, sur cette affaire, puisque vous qui êtes psychiatre, dans l'approche de la dépénalisation de l'euthanasie, d'un point de vue légal, hein, en Belgique, il y a trois pays, hein, les Pays-Bas, la Belgique et le Luxembourg, on disait les grands mélancoliques ne pourront pas prétendre à être euthanasiés. Seuls des malades en phase terminale avérée, donc dont le pronostic regroupé par plusieurs expertises est très limité en temps, ou qui ont une souffrance qui est une souffrance qu'on n'arrive pas véritablement à atténuer, donc une souffrance rebelle, seules ces personnes pourront éventuellement solliciter une assistance médicale à la mort, une euthanasie. Eh bien, on a commencé à euthanasier des grands mélancoliques. C'est pour vous dire donc quelle est la capacité d'un grand mélancolique à exprimer à un moment donné sa volonté ou pas de vivre ou ne pas vivre. Enfin voilà. Donc tout ça pour vous dire que c'est des concepts qui sont finalement assez libérateurs pour un professionnel aujourd'hui astreint à la menace de la judiciarisation des pratiques, en disant il a signé, je peux vous montrer le document, et vous avez même des professionnels dans certaines disciplines qui font mieux. On parlait tout à l'heure de privé, de confidentialité, puisqu'ils s'équipent de caméras. Et donc, non seulement il y a la signature, mais il y a l'attestation filmée. Vous voyez comment la confidentialité, vous parlez de secret, et comment la relation de soins peut être maintenue dans un contexte de cette nature.